Comment vivre sans inconnu devant soi? Les hommes d'aujourd'hui veulent que le poème soit à l'image de leur vie, faite de si peu d'égards.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Longtemps je me suis couché de bonheur. Francis Gavel au micro. Flashback numéro 1. La première fois que j'entends un titre de Léonie Pernet, il s'agit d'une pulsion très pop, et en anglais dans le texte, qui s'affiche dans la bande originale d'un film de Cyprien Vial, Bébé Tigre. On est alors en 2015. Flashback numéro 2. La deuxième fois que j'entends des compositions de Léonie Pernet, c'est à l'occasion d'un concert donné au Backstage by the Mill, une salle de Pigalle, dans le cadre de la 9e édition du MAMA Festival et Convention, un rendez-vous des musiques actuelles installé en octobre du côté des boulevards de Clichy et de Rochechouart. Je la découvre alors à la batterie et j'apprends qu'avant de décrocher le statut d'autrice-compositrice-interprète, elle était à la fois DJ et batteuse pour le compte, entre autres, de l'électromusicien et producteur Yuxek. On est cette fois-ci en 2018 et un premier album vient de sortir, il s'intitule Crave. À ce premier disque succède un deuxième opus en 2021, dont le titre, Le Cirque de Consolation, invite aux résonances avec l'ultime texte de Stieg Dagerman, Notre besoin de consolation est impossible à rassurer. Mais si le court essai de l'écrivain suédois sonne comme une résignation pré-suicide face à la servitude de vivre, les mots, les notes, les rythmes de la musicienne semblent s'offrir comme une injonction à ne jamais renoncer, malgré un monde plus fort que moi, comme s'en désolait Stieg Dagerman. Alors aujourd'hui, s'ouvrant sur une déflagration violonistique avec Archet qui frôle les cordes dans les aigus et répétition entêtante de quelques notes qui se superposent, tel un écho musical à cette préoccupation fatale des hommes de se détruire par son semblable, s'invite le troisième album de Léonie Pernet, Poème pulvérisé. Un titre ici au pluriel, là où René Char, écrivant son poème à l'issue des années de ses années de résistance en 1945, avait fait le choix du singulier. Mais dans une époque de nucléarisation orchestrée des individus, le pluriel, en cela qu'il symbolise le collectif, s'avère peut-être la seule réponse valable, viable, face aux idéologies mesquines. Un collectif que la musicienne choisit, de fait, de consacrer au travers de multiples rencontres. Celle avec des travailleurs sans papier dont les appels à plus de justice sont enregistrés lors d'une manifestation parisienne en 2018, et ici discrètement accompagnée au synthétiseur, le titre « Dispac, dispatch ». Celle récente avec sa famille paternelle au Niger, le titre « Touareg » écouté en ouverture d'émission est une des chansons inspirées de ce voyage en terre d'Afrique. Celle amicale et musicale avec Jean-Sylvain Le Gouic qui co-réalise le disque comme il l'avait déjà fait pour le Cirque de Consolation, ou avec Clara Isé qui vient poser sa voix sur un titre qui tout à l'heure clôturera l'ultime rendez-vous de notre 27e saison « Réparer le monde ». Une réparation qui ne manquera sans doute pas de nous incomber, à nous, peuple dirigé par des fous, car si l'homme de pouvoir est un con, l'homme de la rue est capable de se transcender. Mais peut-être que je me trompe, il n'y a rien à ce sujet dans les dossiers de presse que je lis.
Merci Francis, bonjour.
Et bonjour à toi Thomas Fouet.
Bonjour à toutes et à tous, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ma voix éraillée, je me suis arrangé entre deux épisodes caniculaires pour attraper froid. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau tour d'horizon des sorties en salle, qui marque aussi la fin, Francis le rappelait à l'instant, de cette 27e saison de l'émission, soit 5 de moins que Fort Boyard, mais une de plus que Vivement Dimanche, pour comparer ce qui est comparable, hein, Francis.
Tout à fait.
Une trêve estivale bien méritée. Pour ce faire, avec moi aujourd'hui et autour de cette belle table ovale tachetée de petits points délicats, Christiane Pazvan, camarade nantais. Vous la connaissez, vous la retrouverez aujourd'hui même, si je ne m'abuse, pour Chronique Rebelle. Bonjour Christiane, merci Bonjour. De ta présence parmi nous. Et parmi nous également, Pascal Le Duve du Télégramme de Brest, avec son beau t-shirt des Stranglers. Bonjour Pascal.
Merci, concert du 40e anniversaire.
Voilà, je sais que tu es un habitué des concerts et de la discographie des Stranglers. Et tu connais l'adresse toi aussi, nous t'avions déjà reçu évidemment, et tu es par ailleurs également un compagnon de route de Bulle de Rêve sur ces mêmes ondes, et on embrasse évidemment Alexis, Marie-Pauline et toute leur équipe. Et Francis Gavel, votre serviteur sur ces ondes depuis maintenant 27 ans, je le disais, se joint à nous pour évoquer les films du jour et vous passer évidemment de la musique, car tel est son goût et le vôtre, du moins nous l'espérons. Voilà donc pour ce qui est de l'entre-soi. Si vous nous écoutez en podcast depuis une planète terraformée, un très hypothétique futur, nous sommes donc le samedi 28 juin 2025. Arsenal a encore perdu la première ligue. Amiens n'est pas monté en Ligue 1. Et Sochaux a fini 12e de National. Quant à la rétrogradation administrative de l'OL, je préfère ne pas en parler. Ce serait la rendre un peu plus réelle encore. Mais à l'idée de me taper l'an prochain des Lions Rodez à la télé, je me dis que je ferais encore mieux d'aller au cinéma. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, vous savez tout ce qu'il y a à savoir qui procure de la joie et de l'élévation, excepté pour les arts de lettres et énergie aux activités mécaniques. Et justement, nous y venons. L'Aventura, c'est le nouveau film de Sophie Le Tourneur, présenté cette année à l'Acide au Festival de Cannes. Et c'est donc, après Voyages en Italie, réalisé en 2022, je fais la liaison, c'est pour distinguer le film du chef-d'œuvre de Roberto Rossellini, le deuxième volet de ce qui est appelé, semble-t-il, à former une trilogie, dans lequel, une fois encore, les cinéastes partagent l'affiche avec Philippe Catherine. Soit donc ici les vacances d'une famille en Sardaigne, la mère Sophie, le père Jean-Phi, la fille Claudine, 11 ans, et le petit dernier Raoul, 3 ans. Répétition des situations, ressassement de leur récit, entêtement du dispositif, celui de son précédent long qu'elle prolonge et complexifie. Pour raconter la succession de scènes triviales en quoi consistent les vacances, le tourneur ne fait pas mystère de la fabrication de son film, au contraire, elle l'intègre au montage. Chaque jour, la famille s'enregistre ou essaie de s'enregistrer et s'efforce de fixer ce qui s'est produit la veille ou l'avant-veille, le tout s'adossant à des vacances vécues par le tourneur et sa propre famille. Suis-je bien clair ? Peu importe, le film quant à lui est limpide, en tout cas il ne nécessite pas de notices préventives. Comment passe-t-on de la chose vécue à son récit ? Quel rapport entre ce que, selon entre ce que l'on vit, pardon, et ce dont on se souvient, quand et comment se construisent les souvenirs, ce sont quelques-unes des questions que pose le film. Je cite Nicolas Marquedet dans Les Fiches du cinéma, une revue que je vous conseille. Après Voyages en Italie, Sophie Le Tourneur poursuit avec La Ventura ce qu'en art on appellerait une série consacrée à la mise en tension du film de vacances italienne avec le cinéma moderne italien, dont elle reprend à chaque fois une lettre près le titre de l'un des films fondateurs. Dans le précédent, le thème de la crise du couple validait la référence au classique de Rossellini. Ici, le lien avec celui d'Antonioni est moins évident, mais tient sans doute au principe consistant à éluder systématiquement ce qui pourrait être appelé un événement et de s'en tenir au basique répétitif de toute vacances en famille. Entre le conceptuel et le concret, ajoute-t-il, entre le futile et l'essentiel, entre Antonioni et la story Instagram, entre le tout et le rien, le nouveau Le Tourneur trouve un très séduisant équilibre. Elle affiche Sophie Le Tourneur donc, Philippe Catherine, Bérénice Vernet et Esteban Melero, et c'est en salle le 2 juillet. Tout cela a l'air très théorique, j'en conviens. Francis Pascal, vous avez vu La Ventura, remettez-moi donc un peu de vie dans tout ça, et ainsi vous rendrez justice au film, si tel est votre souhait, bien sûr. Pascal, j'ai envie de me tourner vers toi.
Alors, je sais pas si je suis dans la pièce le spectateur le moins admiratif du cinéma de Sophie Le Tourneur. J'ai souvent eu beaucoup de mal avec son cinéma. La Vue Orange, c'était un vrai repoussoir. Moi, je suis pas du tout rentré dedans. Je sais pas si c'est le côté typique caca à un moment qui m'a. Alors que je pourrais aimer ça. En l'occurrence, en ce film-là, non. Et Le Marin Masqué, c'est pareil, c'est un film que j'aurais dû aimer. C'est en noir et blanc, il y a de l'humour, il y a des crêpes en Bretagne en plus. Je sais pas, c'est pas un univers qui m'a touché. L'aventure m'a un peu. J'ai pas envie de dire concilié plutôt que réconcilié, parce que j'étais vraiment très, très indifférent à son cinéma, que je trouvais un peu trop replié sur lui-même. Là, je trouve qu'il apporte quelque chose. Je trouve que ça apporte un petit quelque chose de différent, c'est-à-dire que c'est ce que tu disais, j'aime bien ce film en train de se faire sous nos yeux. C'est-à-dire que il y a à la fois, j'ai lu un peu sa méthode de travail, qu'elle enregistre ses propres souvenirs de vacances, elle fait des improvisations, donc c'est pas que du souvenir, c'est aussi un peu de fiction. Mais il y a quelque chose où le spectateur est invité à regarder un film en train de se faire, quelque chose à la fabrique du cinéma qui est plutôt intéressant. On pourrait le rapprocher de films comme La Fête à Henriette, de Jean Duvivier, de Tête Folle, de Richard Quine, à l'attaque de Guédiguian. Mais la différence, c'est que ces films-là sont des films de scénaristes qui cherchent à écrire un film pendant qu'on le voit. Là, c'est un tout petit peu différent. Ce sont des gens qui ont vraiment vécu quelque chose. Après, il y a le prisme de la fiction. Et qui cherchent à le recréer et à fabriquer de la fiction sur du réel. Mais aussi, et c'est peut-être la partie qui m'intéresse le plus, à garder une mémoire de quelque chose qu'ils ont vécu. Ce que tu disais, en gros, des souvenirs de la veille ou de l'avant-veille. Il y a un peu de ça chez Michael Hirst, ça s'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un parallèle entre les deux cinémas sur ce point-là, c'est-à-dire la nostalgie de la minute d'avant. Quoi. Et c'est un truc qui me touche assez dans ce film-là, parce qu'en fait, il y a cette envie de se souvenir de la moindre chose qu'on a vécue, qui n'est pas importante, qui a priori n'est pas importante, c'est des moments de vacances, c'est ce que j'ai mangé. On y passe beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que j'ai bu? Qu'est-ce que j'ai dit à ce moment-là précisément? Et ce que j'ai dit, c'est j'ai acheté une carte postale. Quand, où et comment on a fait caca ou pipi? Enfin, et je trouve que dans ce film-là, tous ces aspects-là fonctionnent plutôt bien. C'est-à-dire que c'est l'idée de capter quelque chose du temps qui file. Du temps qui disparaît, du temps qu'on oublie, enfin des choses qu'on oublie, parce qu'il y a un côté très drôle dans le film, c'est vraiment. Surtout que la différence entre Voyager en Italie et celui-là, c'est que là, les enfants sont très présents. Donc il y a un côté vraiment film de vacances, film assez amusant, et dans les petits dialogues, les petits moments, mais il y a aussi quelque chose de la mort qui plane un peu. Parce qu'en voulant capter ça, on empêche le temps de fuir, la mort d'arriver, enfin il y a plein de petites choses, l'oubli c'est un peu la mort, et ça a redonné un peu de valeur, d'importance aux petites choses, et ça je trouve ça assez touchant, c'est la moindre petite phrase, la moindre petite chose un peu marquante, on a envie de s'en souvenir, en fait en parlant de ces vacances, parce qu'en fait on a tous vécu des vacances qui nous ont marqué sur le moment, et genre deux semaines après on se dit mais qu'est-ce que... J'ai tout oublié. Et là, je pense que ce que fait Le Tourneur avec ce film-là, et finalement avec d'autres, c'est vrai que ça m'a un peu éclairé sur son cinéma, c'est... J'ai envie de me souvenir des choses qui n'ont aucun intérêt. Je crois qu'il y a cette phrase que j'avais notée. Il ne se passe rien, il se passe tout. Et je trouve que c'est... En ça, c'est assez...
Il y a quelque chose d'un peu programmatique, d'assez révélateur, d'ailleurs, dans cet échange de dialogue, effectivement. Ouais. Francis.
Je vais commencer un peu comme Pascal, hein, parce que c'est vrai que, bon, Sophie Le Tourneur, je fais toujours attention, parce que je sais que c'est une voix singulière de l'heure actuelle, et je fais attention, effectivement, depuis son premier cours, qui m'avait, moi, tout à fait, à l'époque, déstabilisé. Je me disais, c'est quoi ce truc insignifiant, qui était La tête dans le vide, qui est un film sur lequel j'ai été très réservé. Alors, bon, on sera deux à avoir pas été emballé par Le Marin masqué, qui est quand même peut-être le film emblématique dans la partie court et moyen métrage de Sophie Le Tourneur, celui qui a énormément fait parler de lui. Et donc voilà, moi, Sophie Le Tourneur, je suis un peu comme ça. Il y a des moments où je suis pas très convaincu, et puis il y en a d'autres où j'y vais à fond. Alors effectivement, il y avait, si on reprend les moyens métrages, un film comme Rock et Canyon, ouais, c'était un film que j'aimais beaucoup. Mais après, sur les longs, Les Coquillettes m'amusaient énormément. De ce côté, on part en festival à Locarno en l'occurrence, et on raconte sa vie insignifiante de festivalier, qui a quand même un film à présenter et qui rencontre des gens, et puis un film comme Énorme, qui était un film absolument saisissant, moi je trouvais, quoi. Donc voilà, donc sur l'Aventura, moi je reste un petit peu peut-être plus perplexe que Pascal, parce que c'est un film qui m'intéresse parce que je trouve qu'elle est virtuose dans sa capacité à générer le foutoir, à générer l'insignifiant, à générer, et là chez elle ça devient beau, à générer le banal. Et dire, il n'y a pas de honte à être banal, quoi, finalement. Et dans un environnement qui est sans arrêt productiviste, je trouve que ça fait du bien de se dire, on a le droit d'être en vacances. Mais j'enlève le S du mot vacances, quoi. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant. Après, moi, j'ai un petit peu de mal avec son foutoir à l'écran, quoi. Cette vie de famille qui ne donne pas du tout envie d'avoir une vie de famille, mais qui est une réalité aussi. Mais je trouve qu'il y a un élément tellement intéressant que je m'y suis raccroché, c'est parce que dans toute cette agitation quasi puérile, alors du petit frère, mais lui c'est normal, il a 5-6 ans donc. Et les parents.
Il est plus petit que ça encore.
Voilà. Et les parents aussi qui sont finalement assez puérils entre des petites mesquineries conjugales et puis un devoir parental à vivre, quoi. On sent qu'ils sont au bord de l'implosion, quoi. Carrément, quoi. Et ben, il y a ce personnage de cette jeune fille qui va passer de l'enfance à l'adolescence, et donc c'est un moment de bouleversement évidemment pour elle, de rapport au monde différent, et c'est celle finalement qui essaye de mettre, et là non plus ça n'est pas un défaut, qui essaye de mettre un peu de raison dans tout ça et d'essayer de comprendre pourquoi les choses arrivent, comment elles arrivent. Ce que tu disais, la nostalgie de la minute d'avant, elle enlève la partie nostalgie et elle se dit, je veux comprendre cette minute d'avant, quoi. Et je trouve que ça c'est très beau, et qu'en plus la comédienne, donc Bérénice Vernet, est absolument saisissante dans ce rôle, et je trouve que c'est un élément très très beau, parce que d'un seul coup c'est un peu l'élément d'opposition dans le film au foutoir ambiant, à la puérilité ambiante. Il y a, voilà, comme ça d'un seul coup, cette jeune fille qui veut avoir une raison des choses, et qui, au moment où son contact au monde est en train de se bouleverser, elle, voilà, essaye de se raccrocher et de comprendre les choses qui se passent. Et je trouve qu'à ce niveau-là, le film est intéressant.
Un dernier mot, Pascal, oui.
Oui, après, sur le côté, moi aussi, j'ai des réserves sur le film. C'est-à-dire qu'à un moment, je le trouve aussi trop long, et il y a toujours ce petit problème qu'a Sophie Le Tourneur d'être un peu trop égocentré. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais où tu dis... est-ce que ça parle vraiment aux gens? J'ai des doutes là-dessus. Après, ça reste toujours personnel. Mais bon, je trouve qu'elle fait un geste de cinéma qui m'intéresse plus que les gestes d'avant. Il est peut-être trop long. Alors que, et j'aime. Oui, je trouve intéressant aussi de voir, parce que moi, je n'avais pas vu Voyage en Italie. Il passe en ce moment sur Arte, donc c'est bien de pouvoir le voir. Peut-être, moi, je conseillerais plutôt de voir après l'Aventura, mais c'est parce que j'ai vu dans cet ordre-là. Et c'est bien de voir que le dispositif que tu as un peu résumé apparaît déjà dans Voyage en Italie, mais plus vers la fin du film. Et là, ce que je préfère dans l'Aventura, c'est que ça arrive très très tôt. On sait déjà que c'est un film en train de se raconter lui-même. Dans Voyage en Italie, ça arrive à... plus tard, le contexte du film.
Alors, je rajoute un dernier truc, mais je fais exprès, parce que je sais qu'il faut qu'on parle de Sophie Le Tourneur avec beaucoup de présence. Il y a un plan qui est magnifique dans le film. Tu parlais de Michael Hertz, c'est pour ça que d'un seul coup, ça m'y a fait penser, alors que je me dis que les deux cinémas sont aux antipodes l'un de l'autre. Il y a d'un seul coup un très long plan séquence avec un travelling latéral et tout, où elle accompagne Philippe Catherine marchant dans les rues de je ne sais plus quelle ville en Italie. C'est juste magnifique, parce que d'un seul coup, tu parlais du temps. On a l'impression qu'on est dans le temps présent. On n'est plus dans la minute d'avant, là. on est dans le temps présent d'un seul coup. Et ce plan où il se passe rien du tout, si ce n'est qu'il marche dans la ville, a priori heureux, il a réussi à se débarrasser de sa famille d'un seul coup, et un très très beau plan. Donc voilà, j'avais envie de le signaler quand
même. Oui, tout à fait. Et en cela, Sophie Letourneur est donc, on l'aura ainsi vérifié, l'une des plus importantes cinéastes françaises de sa génération. Cela n'engage que moi. Allez-y, L'Aventura 2. Et avec Sophie Letourneur, c'est donc en salle à partir du 2 juillet. À présent, sans transition, je vous propose une petite virgule musicale qui va nous amener, vous le comprendrez, vers notre film suivant. C'est le nom du légendaire deuxième album solo du britannique Robert Wyatt. Excusez-moi pour ma voix une fois encore. Robert Wyatt, disais-je donc, alors échappé des deux groupes qu'il avait lui-même fondés, Soft Machine et Matching Mall. Et c'est également le nom du film signé par l'espagnol Maria Trenor et qui avait été présenté au Festival du film d'animation d'Annecy en 2024. Il y est bien question notamment de l'album de Wyatt. Album que celui-ci avait commencé à composer lorsqu'il fut victime d'un accident relaté dans le film et qui le laissa paraplégique. Mais Rock Bottom se concentre surtout sur la relation tumultueuse entre Wyatt et Alfreda Benge, dite Alif, qu'il épousera par la suite, si cela vous intéresse, ils sont toujours ensemble, et surtout aux quelques mois passés par le couple à Majorque en 1973, et il le fait en musique, c'est le cas de le dire, utilisant le plus souvent, si ce n'est systématiquement, des morceaux dans toute leur durée, dont l'intégralité de Rock Bottom. Alors c'est moins une étude de la réalisation de Rock Bottom, sa composition ou son enregistrement qu'une évocation du contexte qu'il inspira à Wyatt. Je cite l'ami Jeff Marcadet dans les fiches du cinéma, revue que je vous recommande. « La splendeur formelle de cet essai animé, écrit-il, biopic lacunaire, trip psychédélique ébouriffant, huis clos amoureux jouant avec des techniques graphiques différentes, du croquis crayonné à la photographie, ne doit pas faire écran à la profonde originalité de son approche. À l'inverse de la plupart des films consacrés à des musiciens qui postulent que l'œuvre se déduit de la vie de l'artiste, Rock Bottom choisit d'inverser le courant, de le remonter en quelque sorte. C'est à partir de cette musique diaphane, orpheline de toute école, à la beauté diffractée et insondable, que se dessine le portrait de son auteur, mal à l'aise avec le langage, comme absent au monde. Les mirages perceptifs produits par les chansons, ajoute-t-il, comme par certaines pilules, trouvent des équivalences visuelles qui s'émancipent de tout réalisme, mais tendent souvent vers une splendeur baroque. L'île espagnole se pare de cieux tourmentés aux teintes fuchsia. Le son assourdi de la production résonne avec le monde aquatique, comme l'a bien nommé Sea Song, une des plus belles chansons du monde. J'ai cité Jeff jusqu'à ce point précis, puisque, vous l'aurez peut-être deviné, nous avons entendu en introduction de cette intervention un petit extrait de Sea Song. Fin de la citation, donc je ne saurais mieux dire. J'ajouterais avoir été sensible également pour ma part à cette sorte de torpeur dans les mouvements et qui, outre l'état de conscience altéré des protagonistes, évoque pourquoi pas la stase dans laquelle se trouve alors Wyatt. Mais je nourris également quelques réserves sur l'utilisation qui est faite de la rotoscopie, puisqu'on a ici affaire à des images en prise de vue réelle et à partir desquelles la cinéaste a créé son animation. Tout cela n'est-il pas un peu long par ailleurs, parfois peut-être un peu illustratif dans les visions que produit le film à partir de la musique de Wyatt. Je me fais l'avocat du diable, évidemment. Tout le monde ici a vu Rock Bottom, mais Christiane, j'ai envie de me tourner d'abord vers toi.
Ben, il se trouve que moi j'ai rencontré justement les Soft Machines, mais ils n'étaient pas à Palma, ils étaient à Ibiza. Et moi j'étais très touchée par ce film parce qu'en fait je trouve qu'elle a réussi avec l'animation à traduire l'ambiance qui existait dans ce début des années 70, qui n'était déjà plus, c'était en train de partir, c'était foutu. Hein. Mais,
il y a quelque chose de presque morbide, mortifère.
Voilà. Donc on sent ça, surtout après quand elle va, soi-disant, ils vont à New York, mais en fait ils sont à Londres. Et donc il y a tout ça qui joue et qui, moi, m'a touchée personnellement. En plus de ça, bon, tout ce qui est les paysages, j'ai trouvé ça fantastique. Et ce qui est très drôle aussi, c'est l'espèce de twist qu'il y a, parce qu'au départ, c'est l'été, c'est le paradis, il fait beau, on se baigne à poil, génial, etc. Puis d'un seul coup, il commence un peu à faire froid, parce que dans ces îles, il fait froid l'hiver. Donc là, ça change un peu tout. Il faut se réchauffer, on n'a plus de blé. Enfin bon, il y a un tas de choses qui arrivent. Et puis en plus de ça, si à ce moment-là, ils étaient à Palma, parce que moi, Soft Machine, je les ai rencontrés fin des années 60. Et donc, à Palma, il n'y avait pas vraiment la même communauté qu'il y avait à Ibiza ou à Formentera. C'était très différent. Donc là, il y avait beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui se connaissaient, qui pouvaient s'aider, etc. Tandis que là, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu isolés sur leur île. Ils voyaient les Espagnols, etc. Mais on ne voit pas tellement où il y a quelques amis qui viennent, mais il n'y a pas cette communauté qui existait sur les autres îles. Et ce que j'ai aimé, la musique, évidemment, je l'ai aimé, ça c'est certain, ça m'a rappelé quand même pas mal de choses. Et ce que j'ai vraiment été impressionnée par le travail de cette réalisatrice, parce que je me suis dit, elle n'a pas vécu ça, elle s'est entendue que, etc. Et alors, elle est de Barcelone, je crois. Donc, évidemment, c'est pas loin, puisque de Barcelone, t'es allée sur toutes ces îles. Mais j'ai trouvé que vraiment, il y avait, à un moment donné, j'ai même oublié que c'était de l'anime. Parce que, par exemple, tous les tripes qu'elle a utilisées et puis et donc imaginées, dessinées, etc. Il y avait des choses, c'était ça. Hein.
Oui, choses auxquelles personnellement, moi, je n'ai pas accès ou dont je n'ai aucun souvenir, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais effectivement, le film travaille à traduire en images, en vision la psyché, un état altéré. Des perceptions, de la conscience. Francis, tu as vu également Rock Bottom. Je pense que tu l'avais vu l'an passé à Annecy, peut-être.
Non, pas du tout. Je l'ai découvert à Annecy. Moi, j'étais passé complètement à côté du film. En plus, il avait des retours qui étaient un petit peu, on va dire, moyens, quoi. Donc, je savais qu'il y avait quelques aficionados du film, mais il était un petit peu passé comme ça sur le côté, quoi. Et donc, moi, je m'étais pas plus intéressé que ça. Et en fait, je me suis plus dit, je le verrai après quand il sortira. Et là, c'était l'occasion. Alors, en plus, moi, avant, j'ai quand même découvert effectivement l'album que je connaissais pas. Donc, j'ai acheté le disque, j'ai écouté, je me suis plongé dans cette œuvre, effectivement, un petit peu hors norme, à la fois très planante, on pourrait dire. Hein. Il y a quand même aussi Michael Field qui vient jouer de la guitare sur un morceau. Enfin, et en même temps, très free jazz, parce qu'il y a des solos, que ce soit sax, trompette, qui sont des choses complètement hallucinantes, ou même très contemporains dans les solos de violon alto. Quoi. Et puis, je me suis plongé aussi dans un petit bouquin, alors comme ça permettra de faire un petit peu de pub pour l'éditeur, hein, qui est la maison d'édition Densité, qui est une maison de Rouen, et qui publie des petits ouvrages de musique qui reviennent sur des albums emblématiques du rock alternatif, de la chanson française, et il y en a un sur le Rock Bottom de Robert Wyatt. Et donc, ce qui est très bien dans cette collection, c'est qu'effectivement, il y a d'abord une contextualisation, l'époque, le parcours du musicien, il y a toujours une analyse donc de la pochette, donc comme tu rappelais, effectivement, la pochette de l'album, elle est due à Alfreda Bange, donc la compagne de Wyatt, cette histoire d'amour qu'on suit. C'est presque une rom-com hein, aussi, Rock Bottom, quoi, puisqu'on suit leur histoire d'amour, quoi, un petit peu plus trash.
Comédie de remariage, un petit peu plus trash, une fois.
Voilà, plus tourmentée peut-être. Plus tourmentée. Et donc, il y a la description, il y a un point de vue sur la pochette, et puis après, il y a effectivement morceau par morceau une présentation des titres, de comment ils ont été enregistrés, de ce qui s'est passé à l'époque. Alors, faut préciser aussi que cet album incroyable, il est quand même produit par Mick Mason de Pink Floyd.
Voilà, donc on croise d'ailleurs dans le film, on croise les Pink Floyd au grand complet dans l'une des premières séquences du film.
Voilà, donc on est dans cette époque de Kim Crimson, Machine Knoll, c'est aussi du rock prog. Hein. Mmh. Donc on est dans cette époque rock prog, en même temps musique planante et tout. Et donc tout ça pour dire que, en fait, tu l'as précisé, mais je le redis, effectivement, Rock Bottom, le film, n'est pas un film sur l'album, sur son enregistrement, sur. Et ce qui peut-être, moi, m'a déstabilisé, j'avoue, parce qu'effectivement, c'est ce. C'est peut-être, ayant fait toute cette préparation autour du film avant de le voir, c'est peut-être ce que j'attendais du film. Et non, c'est un film finalement qui vient dire l'inspiration du disque. Évidemment à travers cette histoire d'amour, évidemment aussi à travers cet accident, hein. Et quand je disais comédie romantique un peu trash, le début c'est une comédie romantique, hein. Un homme est avec une autre femme et sa compagne débarque et qu'il a aucun moyen pour fuir et donc il saute par la fenêtre, quoi. Bon, il est sous l'effet des substances et tout, des drogues, tout ça, mais voilà,
c'est... Il saute pas.
Il tombe.
Oui, c'est-à-dire qu'il va sur la petite margelle et il se casse la gueule.
Voilà. Alors, effectivement, il ne saute pas, mais il tombe quand même. Et donc, c'est vrai que, il y a tout ça, et donc, tout ça est donné comme un contexte du disque. Un disque, donc, qui va être d'un seul coup le premier disque d'un Robert Wyatt nouveau, quoi. D'un Robert Wyatt qui est en fauteuil, donc, qui peut plus jouer de batterie, qui est son instrument de départ, quand même. Mmh. Donc, il a des espèces de mini-batterie dans le disque. Et donc, voilà, il faut pas s'attendre à un film sur le disque, mais à un film sur une époque, comme le disait Christiane, sur un contexte, et avec des scènes très rocambolesques. Et puis après, voilà, avec une animation qui, effectivement, c'est aussi un souci économique. Si on fait de la rotoscopie, on travaille avec des acteurs dans des fonds verts, ça permet de gagner du temps après pour l'anime. Et puis, l'animation, je dirais, plus... pas plus pure parce que ça veut rien dire, mais plus directe, l'animation 2D, tout ça, qui effectivement, elle, vient servir comme l'animation a un côté psychédélique, souvent, il y a toute une histoire de l'animation psychédélique, si on va par là, René Laloux, quelque part, enfin, des films comme Heavy Metal, enfin, et voilà, et donc elle concentre les deux choses pour faire son film d'anime au bout du compte, quoi.
Christiane, tu voulais ajouter quelque chose, je te donne la parole juste après Pascal.
Oui, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que moi j'ai vu vraiment ce monde-là qui avait été quelque chose avec les full moon parties et tous ces machins-là. Et c'était complètement en déliquescence. Ensuite, quand ils vont à New York qui en fait est Londres, là aussi c'est en déliquescence. C'est foutu, là, Swinging London, c'est déjà passé. Donc, et elle arrive à traduire ça. Alors, par les couleurs, je sais pas, j'ai vu le film qu'une seule fois, donc, mais ça, j'aimerais vraiment le revoir pour ça et voir pour les détails, parce que moi, elle m'a vraiment bluffé.
Oui, c'est aussi effectivement le récit en filigrane, comme tu le disais, de l'effondrement des contre-cultures de la fin des années 60, que ce soit aux États-Unis ou
en Angleterre. Et tu parlais tout à l'heure, Thomas, de pilules, mais le LSD se prenait pas sur une pilule. C'était là, on était déjà passé dans le Yellow Sunshine, qui était de la merde. Voilà.
Pascal.
Le premier mérite du film, c'est de me faire découvrir un album que je dois reconnaître, je n'avais jamais entendu parler, je n'avais jamais écouté. Même Robert Wyatt, je ne connaissais pas. Donc j'étais content de passer à côté de lui. Pourtant, j'aime bien la musique rock-pop, mais non, voilà, je suis passé à côté. Donc au moins, j'ai découvert ça. Et le premier mérite du film, c'est que, comme tu disais, Thomas, c'est presque comme un concept album, ça, qu'on entend toutes les chansons quasiment en entier, enfin, je crois, hein, mais en fait on a le temps de les apprécier, de les découvrir.
Je me trompe peut-être, mais il me semble que l'album figure en entier, quasiment en entier, en tout cas les chansons sont dans leur durée intégrale. Donc si les 7 morceaux, je crois qu'il y a 7 morceaux sur l'album, si les 7 morceaux ici, ils y sont intégralement a priori. Ouais.
Et donc au moins il y a cette découverte là, il y a un peu de contextualisation, alors pas forcément je crois que c'est les chansons de cet album, si j'ai bien compris, c'est les chansons d'autres albums, que celles où on le voit au début, là, quand il est avec les autres musiciens, où il semble improviser une chanson.
Discographie solo ou voilà. Avec Matching Mall,
c'est ça.
Qui a précédé Rock Bottom.
Ouais. Voilà. Et du coup c'est intéressant de voir comment il a l'air d'improviser ses paroles, alors c'est peut-être un peu fantasmé comme de nombre de biopics musicaux, mais je trouve que ça a un geste presque comique. Qui te permet de rentrer dans la peau du personnage, dans le personnage de fiction, entre la comédie romantique et ce côté musicien. Et donc j'aime bien cette idée-là. Ça se reproduit ensuite quand il dit je chante cette chanson, c'est le premier vers, puis c'est le refrain. Il y a pas d'autres paroles. Et donc j'aime bien ce geste-là. J'aime bien découvrir
la fatigue qu'il a de chanter, d'écrire des paroles, de composer de la musique, l'épuisement auquel il est rendu. Oui.
C'est ça, c'est pourquoi je cherchais à inventer quelque chose, je vais dire ce que je vois, je vais dire ce que j'entends, donc ce geste-là me plaît bien. Après, j'ai aussi des réserves sur Ouais, sur le rythme, je trouve qu'à un moment, la première partie m'emballe. Mmh. Et quand on est trop dans le flashback avec cette histoire d'amour à laquelle j'adhère assez peu, j'ai pas été touché en fait par cette rencontre. J'aime dans l'idée, oui, mais ce que je voyais à l'écran me laissait une distance. Je pense que ça vient du fait que j'avais du mal avec le jeu vocal, mais surtout le jeu graphique. C'est-à-dire que les personnages me laissaient un peu indifférent dans le registre du jeu. Et vraiment, je parlais vraiment de jeu à la fois vocal et visuel, formel. Je sentais une distance, je n'y croyais pas en fait. Donc c'est dommage parce que c'est un film vraiment que j'aurais aimé, mais je reste à distance. Ce que je trouve que assez beau, c'est qu'il capte quelque chose d'un registre psychédélique de l'époque qui se reflète dans la mise en scène, dans l'envie de montrer certaines choses, certaines expériences, le lien entre les personnages dans la foule pendant les concerts. Il y a de belles choses aussi quand ils sont juste tous les deux en amoureux, quand ils sont un peu perdus dans la forêt, dans leur nudité aussi. Enfin, il y a une sorte d'énergie comme ça qui me plaît bien, une narration libre, poétique, qui évite les écueils du biopic. On va t'expliquer comment chaque chanson a été créée, ce qui est toujours un peu lourdingue. Ouais. C'est « Ah, j'ai vécu tel truc », donc voilà, les paroles, c'est toujours là, elle évite le côté littéral. À quelques exceptions près, hein. Moi, dans une des chansons, on parle de hérisson et on voit le hérisson. Quand même, c'est un peu dommage.
Quelque chose un petit peu plus illustratif.
Voilà ce que tu disais. Donc voilà, c'est un film que j'aurais aimé, mais je suis quand même content de l'avoir vu parce que ça m'a fait découvrir un album et
la discographie de Robert Wyatt, éventuellement Christiane, un dernier mot. Oui,
simplement une chose, il faut pas oublier qu'en 1973, il y avait toujours Franco. Et il y avait absolument. Effectivement des. Il y a eu quelqu'un qui. Enfin, il y en a pas mal, il y a eu des gens qui étaient garrottés, etc. Et que dans la rue, la Guardia Civile pouvait t'arrêter, te fouiller, etc.
On les voit passer dans le film.
Ouais, absolument. Et donc, c'est ça. Et moi, je pense qu'en plus de ça, pour elle, en tant qu'Espagnole, ça a été. Pour les Espagnols, ça a été quelque chose de très fort, ces espèces de personnes qui étaient un peu privilégiées, on va dire, même s'ils étaient un peu à la cloche. Bon, c'était quelque chose pour eux, quelque chose d'un seul coup qui s'exprimait, parce qu'entre les années 60 et les années 70, ça a été une période extrêmement dure et extrêmement répressive, où tout le monde se surveillait, etc. Et que quand vous regardiez, vous alliez par exemple au Ramblas à Barcelone, vous aviez les curés, évidemment Franco, etc. Et puis c'est tout, quoi. Il n'y avait rien.
Merci de l'avoir rappelé, Christiane. Alors, Rock Bottom de Maria Tremor, le film sera en salle à compter du 9 juillet. Sans transition, c'est le cas de le dire, sauf qui peut, c'est le nouveau film de la cinéaste belge Alex Poukine en salle depuis le 4 juin. Je me cite moi-même, sinon, qui le fera ? Autrice de Sans frapper, dans lequel elle faisait interpréter par une dizaine de comédiennes le récit d'une jeune femme victime de viol, les invitant également à partager leur ressenti et leur appréhension de l'événement, et juste après que son premier long métrage de fiction Kika a été montré à Cannes à la semaine de la critique, Alex Poukine nous revient donc avec Sauf qui peut. Tout en restituant un témoignage singulier, le procédé polyphonique de Sans frapper en disait l'universalité et la nécessaire prise en charge par le collectif. Plutôt que d'en diluer la puissance, il lui conférait celle d'un cœur pour en livrer en définitive moins une lecture fidèle qu'un ensemble d'interprétations personnelles. Cette prise en charge des mots d'autrui est une fois encore au cœur de Sauf qui peut, dans lequel la cinéaste est allée observer, dans plusieurs services hospitaliers, des ateliers invitant des comédiens à rejouer ou postuler différentes situations auxquelles font face les soignants, annoncer une maladie, prendre en charge une personne en détresse psychologique, par exemple. L'hôpital, comme l'école, fait l'objet régulièrement de chroniques œcuméniques où l'on trouve que tout le monde a bien du courage de faire avec les moyens du bord et dont on sait qu'elle voudrait, en témoignant du saccage des services publics, le contrarier, mais qui, in fine, ne font que le regarder passer, le déplorer en des termes purement et stérilement affectifs. Par sa foi en son dispositif, en ces jeux qui n'en sont pas et prémunissent l'autrice contre toute approche misérabiliste, qu'elle reformule en des termes politiques, son attention à ce que produise un mot, un geste, un regard sur un interlocuteur, sauf qui peut, à mon sens, fait exception. Je n'ai que trop parlé déjà. Qu'en avez-vous pensé ? Un dernier mot toutefois pour préciser, chères auditrices, chers auditeurs, que le film est d'ores et déjà en salle. Ne tardez pas d'ailleurs, il ne reste que quelques séances en région parisienne et à ma connaissance, aucune séance en région n'est pour l'instant programmée. C'est donc d'ores et déjà en salle. À qui vais-je donner la parole ? Allez, Francis Gavel.
Fort bien. Bon, là, je ne sais pas par où commencer. J'ai envie de dire... Si, je vais commencer par comme ça quelque chose qui me semble avéré, c'est que Alex Poukine, c'est vraiment une réalisatrice qu'il faut suivre. Moi, j'ai découvert Alex sans frapper. Il y a un moyen métrage.
C'est un film exceptionnel, un documentaire exceptionnel.
Tout à fait. Il y a un moyen métrage, moi, que j'aime beaucoup, qui est Palma, qu'elle interprète et où elle raconte finalement. C'est aussi des vacances, quoi. Une mère avec sa fille et ce que. Une jeune adolescente, quoi. Et comment ça se passe, enfin. Et je trouve que le regard était assez juste aussi dans un registre différent du Le Tourneur, peut-être un registre plus à vif, mais qui était intéressant. Là, on a Sauf qui peut, on aura Kika, dont moi j'avoue, je suis très curieux, hein, et qui sortira en novembre prochain. Je pense que c'est une réalisatrice importante, donc une réalisatrice belge, hein, faut le préciser. Pourquoi je le précise ? Parce que généralement, dès qu'il y a des artistes dans le cinéma qui sont belges, on a tendance à dire qu'ils sont français, on ne rend pas hommage à leur travail spécifique, peut-être, je ne sais pas, du fait d'être belge. Donc, Alex Poukine est belge. Voilà, alors après, j'ai envie de dire quoi sur le film ? Bah, effectivement, par rapport à tout ce que tu as dit, c'est juste, c'est intéressant. J'avais envie en fait d'un truc. D'un seul coup, là, on est. Alors, il y a du jeu, puisqu'il rejoue entre soignants et parfois des comédiens qui sont appelés pour jouer les rôles de malades. Il rejoue des situations, il rejoue l'annonce à un patient d'une maladie, la restitution à la famille, des choses comme ça. Donc, on est dans un moment, dans un jeu de rôle, et dans un objet de fiction. Et ce qui est intéressant, c'est que la fiction par rapport au monde hospitalier, elle est très importante. Il va y avoir d'autres films qui vont sortir aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça renvoie finalement le fait de les voir dans ces mini-fictions dans un but thérapeutique. Qu'est-ce que j'ai raté à ce moment-là ? Comment je pourrais avancer vers le patient ? Qu'est-ce qu'il attend ? Pour moi, ça renvoie au cinéma de fiction, aux séries. Et j'ai plus pensé à une série comme Hippocrate, celle de Thomas Lee, qui lui-même est ancien médecin, donc c'est une série concernée. Mais toujours dans une série, même une série réussie comme la sienne, et les trois saisons qu'il a faites, il y a toujours un moment un petit peu d'échappatoire pour le spectateur de se dire, il y a des acteurs là derrière, c'est Bully Lanner, c'est Louise Bourgoin, donc je suis rassuré, il y a des figures d'acteurs. Ça montre que c'est la déliquescence à la fois de l'hôpital public et qui est une déliquescence voulue. Et en même temps, ça montre, et je pense que la saison 3 d'Hippocrate le montre tellement, c'est l'état de santé de la population française, quoi. L'état de santé déprimant de la population française et comment des gens qui sont en face, donc les soignants, avec des moyens toujours plus réduits, essayent de faire face. Et ça, d'un seul coup, on peut s'en échapper un petit peu dans la violence politique que ça peut avoir parce qu'on se dit c'est une fiction. Là, du coup, il n'y a plus de fiction. Il y a une fiction à l'intérieur parce qu'on apprend à parler aux malades, à être proche de lui. Voilà, on est dans un documentaire qui montre effectivement la difficulté du métier de soignant. Et je peux après que le renvoyer. Et c'est intéressant que tous ces films comme ça, on pourrait presque faire une programmation, un cycle, se renvoie parce que je viens de découvrir. J'attendais de savoir si on faisait le film d'Alex Poukine ou pas aujourd'hui dans notre choix des films à évoquer. Est à limite de Nicolas Peduzzi qui suit là par contre un psychologue itinérant qui va de services de réanimation aux urgences et qui assiste les malades. Et là aussi, on est sur un documentaire qui avait été présenté à la CID à Cannes, et où à un moment, il y a des choses qui sont très frontales dans ce qu'il dit, en dehors du rapport aux patients. Il dit, de toute façon, l'hôpital public ne va plus depuis qu'on est passé à la taxation à l'acte. Et moi, mon métier, c'est pas un acte. Moi, je vais peut-être passer une heure avec quelqu'un. Et si on considère juste mes actes et donc ma facturation à l'acte, eh ben, je suis pas dans la rentabilité, mais c'est pas ça mon métier. Et c'est intéressant parce que ces films-là montrent ça, disent ça et le disent, bah, évidemment, sans le prisme peut-être un petit peu boom de la fiction. Et je trouve que bah, voilà, c'est intéressant de faire résonner tout ça, comme ça serait intéressant de faire résonner ça avec un film qui va sortir, qui est un film suisse-allemand qui est en première ligne, qui sort cet été et qui est comme ça la journée aussi d'une infirmière, de la prise de service à la fin de journée, dans un service où elle est désemparée. Et ce que je trouve fort, bah, effectivement, dans le film d'Alex Poukine, c'est qu'elle met en jeu, mais finalement, comme elle l'avait fait dans Sans frapper, une manière de fiction. et que cette fiction en fait rend encore plus puissant la réalité et la déliquescence de cette réalité, et cette déliquescence voulue par un système.
Christiane, Pascal.
Moi, ce qui m'a fasciné, c'est au début la scène où ce sont de jeunes médecins, jeunes femmes et jeunes hommes, qui donc font, on dirait qu'ils font une sorte de formation. Et c'est ça, je crois. Ça se passe pas en France. Ça se passe en Suisse, si j'ai.
Mais il y a de tout. Dans différents services hospitaliers. Alors, voilà. Je ne sais parce pas exactement où a été tournée telle ou telle séquence, mais ça a été tourné en France, en Belgique et en Suisse.
Voilà. Donc cette séquence-là a été tournée en Suisse parce qu'en fait, ça ne se fait pas ici. En France, ça ne se fait pas. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que tu vois ces jeunes qui arrivent et qui en fait, ils n'ont pas été formés ni rien. Ils sont complètement sans repère ni rien. Ils se retrouvent en face de malades qui ne sont pas forcément des malades, mais des gens qui jouent la maladie, etc. Et ça donne, on est, comme tu disais, Francis, on est un petit peu à la croisée d'un tas de choses, d'impressions, et toi-même, tu es complètement déstabilisé. Et je pense que de cette manière-là, parce que ça dure tout le film, et elle avait fait la même chose pour S'en frapper, c'est que d'un seul coup, tu es dedans. C'est-à-dire, tu te dis, putain, si moi je voyais des malades, et si moi j'étais malade, et que je me retrouve là, etc., avec ces gens qui n'ont pas le temps. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Tu es obligé de te projeter. Elle a un don par rapport à ça.
Et de toute façon, c'est ce qu'elle faisait aussi dans S'en frapper.
Oui,
parce
exactement.
Que à la fois, il y avait effectivement des femmes qui interprétaient, mais il y avait aussi des hommes. Et il y avait le regard autant sur les femmes agressées et violées que sur les agresseurs, les violeurs ou les potentiels violeurs. Enfin, donc, à chaque fois, elle nous met, qu'on soit homme ou femme, dans quelles que soient les circonstances, face aux choses.
Pascal.
Oui, moi, je n'ai pas vu S'en frapper, mais c'est vrai que ce film, heureusement que je viens à l'émission, sinon je serais placé comme moi à côté, en fait. Et je trouve le film très fort. Enfin, un film politique qui parle de politique, déjà, c'est pas si courant, qui montre les choses. Déjà,
qui parle de cas particuliers pour aller vers...
Ah, oui.
La mise en évidence du système qu'évoquait
Francis
tout à l'heure.
Ah oui, le système, il en prend plein la gueule.
Ah, et puis de manière progressive. C'est-à-dire que, déjà, moi, je ne savais pas ce que racontait le film. J'aime bien voir les films sans savoir moindre chose dessus. Donc, la première scène, on croit que c'est un vrai patient, en fait, qui va vraiment mourir. Il y a même cette phrase de conclusion terrible. Le médecin dit, en fait, ça, le gars que tu joues, en gros, il est mort un mois plus tard. Donc, il y a des moments vraiment glaçants comme ça pendant tout le film où on montre la réalité de ce que c'est. Et, tu parlais d'idée de se projeter. C'est quand on en a eu la malchance de se retrouver souvent en hôpital, on ressent des choses qu'on a vécues, qu'on revoit là dans le film. Et tu te dis, ouais, peut-être que les médecins devraient prendre ces cours en France notamment. Ces ateliers sont assez impressionnants, c'est-à-dire que ce sont des ateliers qui permettent aux médecins non seulement d'apprendre à parler aux patients, mais aussi d'apprendre à se parler à soi-même. C'est-à-dire comment apprendre, c'est vraiment, on apprend à avoir de l'empathie, on apprend aussi à l'exprimer, on apprend à s'adresser aux patients, on apprend
à écouter
et à inciter le patient à parler, c'est vraiment des petits détails très précis, c'est-à-dire que comment le patient peut voir sa parole libérée grâce aux mots, aux conseils, aux questions du médecin, parce qu'il faut oser. On fait presque tous des interviews, c'est beaucoup plus anodin, mais il faut aussi oser poser des questions. Et là, dans le film, bah, évidemment, c'est beaucoup plus grave, c'est un cadre médical, c'est comment tu poses des questions et comment aussi tu n'anticipes pas les réponses, comment tu essayes de faire parler le patient, parce que s'il ne dit pas certaines choses, le médecin peut passer à côté de choses importantes, physiques comme morales, et le film capte beaucoup ça aussi parce que Alex Pookin fait elle-même preuve d'empathie. Bon, elle a apparemment vécu des choses, elle a connu le milieu de l'hôpital, c'est pour ça qu'elle a voulu faire ce film, si j'ai bien compris. Et donc, il y a cette recherche-là de comprendre, je me suis un peu perdu, de comprendre, oui, comment faire parler les gens, parce que ce qui est très bien dit dans le film, c'est quand on va voir un médecin, on ne sait pas quoi dire. Il y a des choses qu'on ne dit pas si on ne pose pas la question. Et donc, ce qui est du dispositif formel, c'est toutes ces questions que les gens posent, c'est pour... Alex Pookin réussit à montrer comment comment le processus de... Bon, je me perds un peu. Pour arriver à faire parler les gens, c'est très très compliqué à faire naître, et c'est parce qu'elle laisse le temps à chaque atelier, à chaque exercice, que nous-mêmes on comprend comment eux-mêmes arrivent à s'exprimer et à faire exprimer les autres.
Et tu disais que c'était un film extrêmement politique, et ça je suis complètement d'accord avec toi, parce que en fait, dans le film, quand tu le regardes, moi je l'ai regardé une deuxième fois, et la deuxième fois, tu vois tous les problèmes qui sont évoqués sont les problèmes qui reviennent dans tous ces pays, et ailleurs même certainement, au niveau international. Et tu as tout, tu vois. Ils n'ont pas le temps, il n'y a pas d'effectifs, il y a effectivement, on a 20 minutes pour... parce que maintenant, c'est cadré. C'est 20 minutes, il ne faut pas plus pour rencontrer un patient ou une patiente. Enfin, il y a tout ça, et c'est remarquablement bien foutu.
Francis.
Juste un dernier petit truc, en fait. Alors, toujours là, je repense à Thomas Little, il me semble que dans un film qui est peut-être moins réussi, qui est Médecin de campagne, par rapport à ce que disait Pascal sur l'interrogatoire médical, c'était de dire, à un moment, un des personnages dit, mais de toute façon, le patient va toujours finir par te donner la maladie. Il faut que tu l'écoutes, parce qu'il ne faut pas que tu l'interrompes, il va toujours finir par te dire la chose, en fait. Et donc, tu sauras où aller.
Oui, un dernier mot, Pascal, et puis après, on va accélérer un petit peu, parce que nous avons évidemment un programme très chargé, un programme pré-estival. Nous
Comme
avons
d'habitude.
Envie de recommander le plus de films possible à nos chères auditrices et chers auditeurs. Pascal, je t'en prie.
Non, c'est juste pour dire. Oui, puis aussi, la parole se libère parce qu'elle laisse le temps au temps, quoi. Et c'est important. Comme les médecins doivent laisser le temps aux patients. Et donc, la mise en scène du film sert le propos politique avec en plus de l'humour. On rit souvent quand même. Même le noir, mais avec des moments, genre, j'ai joué la gonorrhée, ou j'ai pas réussi, enfin, tout le moment autour de l'amputation, enfin, il y a plein de petits moments drôles aussi.
On laissera les spectateurs, les spectatrices se rendre compte, des effets comiques de la scène d'amputation.
En tout cas, c'est à voir, vraiment.
Sauf qu'il peut être d'Alex Poukine, c'est donc d'ores et déjà en salle. Je vous propose à présent qu'on fasse une petite pause musicale, et puis on se retrouve juste après pour poursuivre ce tour d'horizon des sorties en salle.
Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne joins pas les deux bouts, c'est à cause de mon fiacre qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne joins pas les deux bouts, c'est à cause de mon fiacre qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Congolis, baby aimerait sa pierre. Yeah. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà paix. Pollen, je maille à la baie. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille. Congolis, baby, aimerait sa pie, bien. Moi, si sous Cali, je me lève, je suis déjà paix. Je suis pété sous Cali, pollen, je maille à la baie. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille. Et oui, oui, mon cul est gros. Donc y'a des radis qui ont trop les gros. Des raclis prêtes à quitter leur vieux raclo. Je l'ai tué puissance suite. Sexy ghetto, appelle-moi Freaky Malpoli. Si je choisis une bague, son diamant est bien poli. Donc mon chou à la barre, elle n'est jamais ramolli. Congolis, baby, aimerait sa pie, bien. Moi, si sous Cali, je me
retour sur les ondes de Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez longtemps, je me suis couché dernière. Thomas Feu, micro en compagnie de Francis Gavel, Christiane Passevent et Pascal Leduf. À l'instant, nous écoutions Congolis sous BBL de Théodora et Gis Suave. L'édition augmentée de l'album de Théodora intitulé Mega BBL vient de sortir chez Boss Lady, le label de Théodora. Je vous la recommande notamment pour les feats avec Jules et Baby Trix. Et nous reprenons le cours de notre table ronde, donc consacrée à l'actualité des sorties en salle. Changement de genre pour Antonin Perejetko, qui, avec Voyage au bord de la guerre et après avoir opéré comme laborantin de la Comédie française, la soumettant à un certain nombre de ruptures de tronc, de ruptures de ton, excusez-moi, j'ai vraiment la voix complètement éraillée, ça modifie mon rapport au langage, figurez-vous. Je reprends donc. Antonin Perejetko, après avoir soumis à un certain nombre de ruptures de ton, de collisions et d'accélérations la Comédie française, avec Bonheur surtout dans La fille du 14 juillet et La loi de la jungle, signe un documentaire, Voyage au bout de la guerre donc, qui le voit se rendre par deux fois en Ukraine, d'abord en 2022, quelques semaines après l'invasion russe, puis un an plus tard. Avec dans l'idée de retrouver le village de son grand-père ukrainien, ayant fui l'Holodomor, la famine longtemps niée pour partie orchestrée par Staline au début des années 30. Bon, mal nommé Staline, hein, voilà, il y a des choses plus graves dans le monde. Perejetko accompagne ici un ami, Andrei, réfugié que par ailleurs il héberge. Ce faisant, il capte des visions du pays, collecte la parole de ses habitants, commente et médite sur les événements, car la voix off, il faut le dire, celle de Perejetko lui-même, est très présente. Voilà un film qui, dans la texture de ses images notamment, le cinéaste a filmé avec une Bolex, dont les pellicules, par ailleurs, ne permettent pas de filmer plus de 3 minutes, travaille à ne pas devenir un témoignage d'actualité et à contrevenir à l'imagerie médiatique. Mais que produit-il à la place? Telle est la question. Quand on a Perejetko, écrit Nicolas Marcadet dans Les Fiches du Cinéma, une revue que je vous préconise. Passe d'auteur de comédie à reporter de guerre pourrait être étonnant, dans les faits ça ne l'est pas. D'abord parce que ses comédies ont toujours eu un fond politique, ensuite parce que son documentaire est tout à fait fidèle à son style, rapide, ironique, bricolé, visuellement un peu vintage. J'ajoute que Voyage au bord de la guerre est d'ores et déjà en salle, et je vous cède la parole, non sans avoir précisé, après je me taisais promis, que ce travail sur l'histoire au moment même où elle se produit, Perejetko l'avait déjà expérimenté il y a de ça quelques années, sous une forme plus hybride certes, en consacrant un film aux Gilets jaunes, ça s'appelait Les Rendez-vous du samedi, je vous le recommande. Madame, messieurs, c'est à vous. Allez, Christiane.
Et je dois dire que j'ai trouvé le film extrêmement intéressant, mais au-delà de ma curiosité, j'ai pas été vraiment attachée. Ce que j'ai aimé, enfin, ça m'a fait penser, tu sais, à. Il y avait eu ce voyage là dans le fameux train qui s'en va vers la Russie, etc. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Puis d'un seul coup, il bascule dans autre chose, donc un an après, etc. Mais très franchement, peut-être je suis pas non plus très, je suis plutôt vers l'Orient, moi. Le Pays de l'Est, c'est pas mon truc, je crois. C'est peut-être ça. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais le côté foutoir m'a un peu gêné.
Pascal,
moi ça m'a plutôt, enfin moi j'étais vraiment très frappé par le film. C'est déjà, je trouve quand même, c'est pas si courant que ça. Très courageux d'aller tourner un film dans un pays en guerre, déjà de s'y rendre, en fait, et de. Alors, il se fait le témoin d'un événement historique, mais il ne se contente pas de, comme tu disais, de faire un reportage. Il fait autre chose. Il fait vraiment du cinéma en prenant ce geste de la Bolex, de plan obligatoirement court de 22 secondes. Donc, ça impose un mouvement, une énergie, une dynamique au film. Le film en lui-même dure à peine une heure. Donc, il y a cette même énergie-là, cette même densité. Il dit beaucoup de choses en une heure. Il parle de la mort et de la vie en même temps. C'est-à-dire que c'est un pays en guerre. Donc, il y a des impacts de balles partout, sur les murs, sur les palissades. Et en même temps, la vie continue. On voit des gens marcher dans la rue, sourire presque. Et il arrive à montrer ces deux éléments sans que l'un n'interdise l'autre. Il montre la vie, quoi. Je trouve ça très fort. Et puis, c'est vraiment dans la continuité de ce que tu disais des rendez-vous du samedi, où il montre quelque chose d'aujourd'hui, tout en faisant quelque chose de plus universel, de plus. C'est un film qui se regardera encore dans des années. C'est pas juste la captation d'un moment.
Non, c'est un témoignage.
Ah oui,
c'est
fort. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs témoignages très courts à chaque fois. Ils s'apesantissent pas. Et en même temps, ils disent énormément de choses en peu de temps. Cet artiste-là qui recompose des images d'horreur, ces divers témoignages de gens qui ont été obligés de fuir et qui disent en gros à peu près la même chose. C'est la chance et la malchance. C'est selon le moment, tu peux mourir, être mort ou vivant. Et ça s'est dit en très très peu de phrases. Il capte aussi de la colère, la sienne. On sent bien qu'il est en colère, sans que ça soit étouffant. Il y a aussi ceux qui témoignent, qui disent à la fois la colère de ce qui se passe, de l'invasion russe, mais aussi de l'impression de s'être fait abandonner, d'être, comme l'un le dit carrément, d'être sur de hashtag provisoire, puis après on sera remplacé par un autre hashtag. Et donc il y a plein de petits gestes.
L'impression qui, depuis, n'a pas dû s'arranger.
La
guerre s'éternisant et la géopolitique faisant que d'autres conflits, évidemment, se sont fait jour dans le monde.
Et puis il y a des images très fortes. Moi, je pense à quelque chose qui relève presque de la sculpture moderne, ces voitures encastrées les unes dans les autres. Qui pourrait presque du César, et en fait, ce sont des voitures de gens qui ont fui, qui sont et qui deviennent une œuvre d'art. C'est terrifiant.
Francis.
Je vais rejoindre un petit peu tout ce qui a été dit. Effectivement, moi, j'étais très content de découvrir le film, qui est évidemment un film très dense, et en plus avec une durée très réduite, quoi. C'est vraiment un objet, on a presque l'impression qu'il le lance comme ça, mais il y a du montage, on retrouve tout ce que tu disais par rapport au style de Peredjatko, la Bolex, là c'est encore plus obligé, mais la post-synchro du son qui crée toujours ce décalage, ce sentiment d'irréalité, et qui était encore plus flagrant peut-être dans les courts-métrages, que ce soit Changement de trottoir ou French Kiss, où on avait vraiment cette sensation que la réalité ne l'était pas complètement. Et puis il y a aussi cette première partie du film qui est incroyable, cette première partie du film où il fait un film sur la Russie, et où il montre entre autres les stations de métro. Donc quand on a vu les stations de métro russes, effectivement on sait que c'est les plus beaux abris anti-atomiques du monde.
Qui relève du souvenir de voyage, c'est des images, si ma mémoire est bonne, qu'il a tourné quelques années plus tôt.
Et il y a cette espèce de commentaire sentencieux et caustique qui renvoie, moi je trouve, qui renvoie effectivement à ses œuvres de fiction. Et d'un seul coup, paf, on bascule effectivement dans le voyage, dans le départ. Et ce qui est intéressant, c'est la position de cinéaste. On n'est pas face, à mon sens, à quelqu'un qui se montre, quoi. Antonin Peredjatko, c'est l'anti-Bernard-Henri Lévy, quoi. et c'est quand même important de le dire, parce que du coup, il nous entraîne dans une réalité quotidienne de la guerre. Qui est loin du spectaculaire, et il y a du spectaculaire chez BHM dans les films qu'il fait, et du spectaculaire des chaînes d'infos continues, quoi. Et puis il y a une sentence qui, s'il y a des apprentis envahisseurs qui nous écoutent, et ben effectivement faut savoir que donc chez l'ennemi il y a trois choses à détruire: l'industrie, le moral et la culture.
C'est pour ça que l'humour est très très présent dans ce film. D'ailleurs, comme dans tout, quand tu vois des films sur Gaza, à l'intérieur, des gens qui tournent à Gaza, les Gazaouis, l'humour, c'est sa manière de résister.
Voyage au bord de la guerre, d'Antonin Peredjatko, c'est donc d'ores et déjà en salle. Sans transition, toujours, on va fêter cette année les 50 ans des Dents de la Mer. Alors fêter, c'est un bien grand mot. Toute célébration de l'événement sur les plages de Lacanau ou de Biarritz, parc à thème ou jeu de rôle serait probablement malvenue. Quoi qu'il en soit, à la suite du chef-d'œuvre de Spielberg, il y a quelques exceptions près. Je pense récemment au très réussi Instinct de survie de Raume Colessera. Le sous-genre du film de requin a été littéralement enseveli sous la pop culture nanardesque. Que l'on songe par exemple à l'aberrante franchise Sharknado, dans laquelle, je vous le rappelle, les requins tombent du ciel. Or, cette année, à la quinzaine des cinéastes, un film promettait de remettre un peu de sérieux dans tout ça, le sérieux n'excluant pas le fun. Il s'agissait du troisième long métrage du cinéaste australien Sean Byrne, après The Loved Ones et The Devil's Candy, tous deux inédits en salle en France. De quoi est-il donc question ? Nous sommes à Gold Coast, en Australie. Tucker, propriétaire d'un bateau, propose aux touristes une expérience inoubliable, plongée dans une cage parmi les requins, sauf que Tucker, en vérité, une fois à large, se débarrasse de ces messieurs et donne à manger ses dames à des animaux qu'il a accoutumés à la viande humaine, non sans immortaliser le spectacle en vidéo, en VHS, s'il vous plaît. Un matin, Tucker enlève Zephyr, une surfeuse au tempérament indépendant, au point que personne peut-être, et je dis bien peut-être, n'irait s'inquiéter de sa disparition. Commence alors pour la jeune femme un combat à mort avec son bourreau. Survival, film de tueur en série, film de requin, on le disait, Dangerous Animals et tout cela à la fois. Peut-être m'avait-on à Cannes quelque peu survendu le film, mais enfin, voici tout de même un candidat crédible au titre de série B de l'été, et puis ça vous donnera des idées de vidéos de vacances. Le titre est assez programmatique, de l'homme ou de l'animal, qui est le monstre. Jay Courtney, le fossoyeur de franchise hollywoodienne, vu ou plutôt subi entre autres dans Terminator Genisys, Die Hard 5 et Suicide Squad, et qui ici joue le méchant de service, a-t-il enfin tourné dans un film correct? Et surtout, quel usage Dangerous Animals fait-il de son décor, je m'excuse une fois encore, comme je n'aurai de cesse de le faire d'ici la fin de l'émission, pour cette voix éraillée et qui me fait dérailler dans la lecture de mon conducteur. Quel usage Dangerous Animals fait-il de son décor, ce vieux rafio, entouré d'eau, décidément. Quel calvaire. Vivement les vacances. Et où va donc se déployer cet escape game sous tension? Au casting donc, Assie Harrison, Joss Houston et Jay Courtney. Pour découvrir en salle le film, il faudra faire preuve d'un peu de patience. Ça sort le 23 juillet. Allez, Pascal.
Bah alors, déjà, je vous ai épargné mon t-shirt Sharknado 3. J'ai failli le mettre. J'ai un beau t-shirt.
On a eu la même idée, parce que moi, je voulais mettre un autre t-shirt. Je vous raconterai après.
Et déjà, je partage ton avis sur Jay Courtney, qui est quand même un des pires acteurs du monde actuel, qui a parfois quand même été convaincant. Je l'aime bien dans le Suicide Squad de James Gunn, peut-être parce qu'il meurt très vite.
Dans celui de James Gunn, absolument.
Oui. Oui. Et dans Invincible d'Angelina Jolie, parce que pareil, il meurt très vite. Mais je sais pas. Et dans ce film-là, je trouve qu'il a enfin un rôle un peu intéressant, c'est-à-dire qu'il a au moins une présence, il est méchant. Après, je... c'est dommage, c'est un film que j'aurais vraiment aimé là encore, mais il est il tire vraiment trop à la ligne. La première partie est vraiment intéressante, c'est vraiment assez intense. Tu parles du personnage féminin principal qui se retrouve avec une autre victime, et le lien qui se crée est plutôt attachant. Il y a aussi un début de comédie romantique auquel tu crois. Enfin, j'aime bien ce lien qui se crée. Après, tout ce qui se passe après est totalement improbable. Donc, je ne veux pas en dire trop parce que tu es habité de le faire. Mais on va se concentrer sur Jay Courtney et le crocodile. Alors, déjà, le fait.
Et le requin.
Pardon, le requin.
Le prochain, ça va être les crocodiles.
J'ai aussi des crocodiles. Je pensais à Solitaire de Rogue, un film australien qui était
absolument
très bien.
Oui.
Qui m'a fait penser à ça. Et c'est vrai que. Bah dans ce film, le monstre, c'est pas le requin. Le requin, à la limite, il est gentil, et c'est presque une victime.
Oui, puisque même il s'en bat. Hein.
Ah oui, c'est le vrai méchant, c'est Jay Courtney, évidemment, qui s'amuse, quoi. Il en fait des tonnes, il en fait des caisses. Et c'est peut-être ce qui est dommage, parce qu'il aurait pu... C'est peut-être un problème, c'est sur l'écriture que Jay Courtney fait très bien son rôle. Mais le problème, c'est que ça s'éternise. Il y a un film, évidemment, auquel je pense, c'est Wolf Creek. Et Wolf Creek, c'est un des meilleurs films d'horreur de ces derniers temps, parce qu'il est radical, il va jusqu'au bout. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de... je ne parle pas forcément de Happy End, mais il n'y a pas d'échappatoire. C'est-à-dire qu'il y a un côté, le destin est tracé d'avance. Et on y croit totalement. Alors qu'il y a beaucoup d'humour aussi. Et là, à un moment, je me désintéresse. Alors, je pense que c'est un film à voir pour ceux qui aiment le genre. Ça marche plutôt bien. Mais c'est pas un film qui, pour moi, reste. Alors que Wolf Creek, 15 ans après, j'y pense encore.
Francis, un mot sur Dangerous Animals.
Ouais. J'avoue que je suis allé le voir parce que le retour cannois de sa présentation à la quinzaine des cinéastes était dithyrambique.
On nous en disait monts et merveilles.
Hein. Voilà. Alors, moi, je trouve qu'à un moment, il y a quelque chose d'intéressant et le film n'en fait rien, en fait. Donc, le serial killer au requin, moi, je n'ai pas votre connaissance des castings comme ça. Donc, je vais dire le serial killer au requin, c'est plus facile. Invite donc le petit ami de l'héroïne à jouir du spectacle. Hein, puisqu'on rappelle qu'il y a ce dispositif, hein, il filme la mise à mort, donc on est dans une espèce de dispositif de snuff movie, quoi. Et donc, il dit, bah voilà, parce qu'en fait... Et d'un seul coup, il y a une interrogation. C'est effectivement, est-ce qu'on ne jouit pas du spectacle? Et est-ce qu'un homme, par rapport à une maltraitance poussée à son paroxysme, fait à une femme, ne jouit pas du spectacle, quelque part? Et je trouve que le film, en voulant rester mainstream, ne fait absolument rien de ce moment. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à un autre film qui n'a rien à voir, mais qui est un film justement où là, ça pose ce questionnement et jusqu'au bout. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Irréversible de Gaspard Noé. J'ai pas pu m'empêcher, évidemment, de penser à cette scène de viol où là, Gaspard Noé, il est dans le plan séquence, il est dans mon souvenir, dans un plan qui est plutôt fixe, mais je ne l'affirme pas complètement parce que c'est un souvenir vague de ce qui est à l'écran, mais c'est pas vague du ressenti que j'ai. Ce qui était passionnant et très dérangeant dans le film de Gaspard Noé, c'est que d'un seul coup, au départ, il y a un viol d'une très belle femme, Monica Bellucci. Donc, il y a quelque chose d'une jouissance qui malheureusement, peut arriver au spectateur, et là je parle du spectateur masculin, et d'un seul coup, dans un revirement qui est l'intelligence de Gaspard Noé, qui n'offre pas d'échappatoire, tu parlais d'échappatoire pour vous écrire que moi j'ai pas vu, mais justement, Noé n'en donnait pas, parce que d'un seul coup, dans la suite du viol, il y a une mise à mort totale. du personnage féminin. Et d'un seul coup, on ne peut qu'être, si jamais on a été sensible à quelque chose avant et sensible dans toute sa démesure et dans toute la...
dans toute la dimension problématique de la chose.
Voilà, et dans tout le dégoût que ça peut inspirer, c'est que d'un seul coup, on se retrouve face à soi-même avec quelqu'un qui nous dit, ben, après, il la tue, quoi. Et il la tue d'une manière absolument violente, il la défigure. Donc, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se pose. Il y a qu'est-ce que c'est que de jouir d'un spectacle qui n'est pas une jouissance. Et je trouve que le film ne fait rien de ça, parce que le film, il veut rester mainstream quand même. Donc, effectivement, il est hyper programmatique. Parce qu'à la limite, on peut le résumer d'une autre façon. Le film, c'est un homme et une femme, un joli couple. Il y a une belle rom-com qui débute et qui est très jolie. La rom-com, par contre, elle est super belle. Vit une nuit de terreur et au matin, il se marie. Voilà. Et donc, moi, je me suis dit, le film, il est passé à côté de ce qu'il a à dire. Et c'est bien dommage parce qu'en plus, le film veut offrir un personnage féminin qui prend l'espace de là où elle est maltraitée. Elle investit l'espace pour résister. Et donc, elle prend de plus en plus de place. Et malheureusement, à la fois par rapport au regard masculin, on n'en fait rien. Et aujourd'hui, quand même, il y a peut-être une problématique à se poser. Et en même temps, à la fin, c'est juste... Et à la fin, je pense qu'ils vont se marier.
Christiane.
Alors, moi, je l'ai vu complètement différemment. C'est-à-dire, je dois dire, je suis allée un peu pour me moquer. Voilà. Parce que je me suis dit, bon, allez, je vais aller voir ça. Ça va être les dents de la mer... c'est N, je sais pas combien, je vais pas voir en général ce genre de film. Mais là, ce qui m'a intéressé en fait, c'est le personnage de la jeune femme, parce que je sais pas si vous vous souvenez, enfin, aux États-Unis, au moment des Dents de la Mer, on a sorti des t-shirts, dont j'ai un exemplaire, où il y a ce requin, hein, et en dessous, c'est pas les Dents de la Mer, c'est It's the Rich. Et là, moi, j'ai dit, ah ben c'est ça, c'est It's the Rich, puisque la gamine qui est bouffée, ben c'est la petite gentille petite fille qui est là, qui pense à sa maman et qui en fait, ben là, il y a le jeune homme aussi qui est très sympa.
Petite jeune fille qui a pris un an de disponibilité.
Voilà. Il y a le jeune homme qui s'est occupé de cette jeune femme qui est limite SDF et qui est aussi, puis elle dit non, moi je prends la route, je veux pas la tâche, je veux rien, etc. Donc le personnage de la femme m'a intéressée et je me suis dit, ah, finalement c'est elle, bon je dirais pas la fin, mais c'est elle qui a quelque chose, voilà, il se passe quelque chose. Alors le côté petite comédie sentimentale, alors, moi je suis passée à côté, je n'ai pas regardé.
Très bien. Oui, mais toi, tu n'es pas fleur bleue comme moi.
Voilà, c'est ça.
Voilà. On a une réflexion de classe. Voilà. Chez Christiane, voilà, c'est ce qu'elle était venue chercher dans le film. Faites-vous votre propre idée, donc Dangerous Animals de Sean Byrne, pardon. Ce sera en salle à compter du 23
juillet. Oh, c'est marrant, hein, quand même.
Oui. On va en dégoûter personne, évidemment. On fait une petite pause, une petite virgule musicale, et puis ça va nous amener, comme tout à l'heure, vers notre prochain film. Et on se retrouve juste après. Rythme de Vera, c'est le nouveau film du cinéaste israélien Ido Fluck, soit les efforts déployés en 1975 par Avera Brandes, 18 ans, pour organiser à Cologne un concert de Keith Jarrett, concert passé depuis à la postérité, mais qui faillit ne pas avoir lieu, le pianiste épuisé ayant d'abord refusé de jouer sur un piano pas beaucoup plus en forme. Presque un malentendu de l'histoire, ce concert, quoi qu'il en soit l'un des plus grands succès discographiques de musique savante et dont on doit la tenue à une jeune femme de 18 ans en butte à un milieu alors très masculin et à la désapprobation paternelle. Comme Jarrett composa avec les aléas adaptant son jeu, C'est épuisant, cette voix. Adaptant son jeu aux limitations que lui imposait son instrument, le film se débrouille donc d'une difficulté, et non des moindres, à savoir l'interdiction qui lui a été faite d'utiliser la musique du concert. Vous me direz comment il procède. Au casting et dans le rôle-titre, on retrouve donc Mala Ende, à ses côtés Michael Chernus et Ulrich Toucourt, vu notamment dans Le Ruban Blanc de Michael Haneke, et pour interpréter Keith Jarrett, si je ne m'abuse, John Magaro, acteur fétiche de Kelly Richard, autant dire un ami de la famille. C'est en salle depuis une semaine. Francis, un petit mot sur oui. Au rythme de Vera,
oui, bah,
que tu voulais absolument voir figurer au programme.
Oui, j'y tenais parce que
c'est le film musicophile que tu es.
Ouais, et puis ça a été une vraie surprise, le film. Je m'attendais pas à ce. On parlait de biopic tout à l'heure. Je me suis dit, ça va être très biopic. Et puis voilà, ça va partir. Et ce que je trouve passionnant dans le film, en fait, c'est comment il essaye de mettre en rapport donc deux personnalités, Vera Brandes et Keith Jarrett, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et comment le film le fait, lui, par son montage, par sa mise en scène. Et ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est avec Vera Brandes, on est d'un seul coup dans l'époque, avec alors des choses qu'on peut considérer comme des afféteries, hein, un faux démarrage de film, et puis des adresses à la caméra, enfin des choses comme ça, on peut se dire, bon, c'est un peu facile de faire ça, mais en même temps, on est dans une vitalité, dans une dynamique d'une époque, tout ça, et d'une jeune femme qui veut faire quelque chose que son milieu, et je trouve que ce que le film tient bien aussi, donc il veut faire quelque chose que son milieu réprouve, et le film tient bien ça par rapport à des biopics, il n'y a pas de réconciliation avec le père, quoi. On reste sur un mépris total du père envers sa fille. Donc il y a ça, c'est la première partie du film, et d'un seul coup, au moment où elle découvre Keith Jarrett, le film change complètement de tonalité. Alors en plus, on peut se dire, mais vraiment, le film se permet tous les trucs qu'il faudrait pas faire, quoi. D'un seul coup, on met un personnage de faux journaliste, et le personnage de faux journaliste vient nous expliquer l'histoire du jazz.
Ah ouais, ça c'est génial.
Mais après, je trouve ça génial, parce que je me dis, c'est très...
En plus, il a joué, j'étais même pas là, je n'existe pas.
Oui, oui, et voilà, et ça continue avec les adresses à la caméra et tout ça, et d'un seul coup, le film quitte ça, ce personnage fictif, mais alors... fictif au centu, puisque c'est un personnage de fiction, mais en plus qui n'a pas existé. D'un seul coup, se retrouve avec, effectivement, Keith Jarrett et Manfred Escher dans la voiture toute pourrie qui les emmène, je crois que de Berlin à Cologne. Et d'un seul coup,
de Suisse.
Ah oui, pardon. Et d'un seul coup, le film change complètement de tonalité. Et on est dans une tonalité, je dirais, Keith Jarrettienne, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est sur des plans beaucoup plus longs, un voyage dans lequel il se passe rien, où Jarrett répond du bout des lèvres aux questions du journaliste qui ose poser des questions. Et d'un seul coup, voilà, le film est presque atone. Avec un musicien qui est comme Thomas aujourd'hui, qui n'a pas envie de parler, qui a du mal à s'exprimer, et qui dit non.
Qui a toujours eu des difficultés avec le langage, l'élocution.
Mais non. Qui j'arrête, oui, pas toi. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Et d'un seul coup, il y a le concert. Et donc, bon, ben, on vient d'écouter un extrait très rapide, une minute.
Qui n'existe pas dans le film.
Voilà, le concert n'existe pas musicalement. Donc, on vient d'en écouter une minute, justement, pour donner aux auditeurs et aux auditrices un petit peu de la musique de Jarrett. Et c'est le tout début du concert, ce qu'on a écouté. Et ce qui est absolument saisissant, c'est ce que le réalisateur arrive à en faire. C'est-à-dire... j'ai pas le droit à la musique du film parce que Manfred Escher et ECM ont dit, et les ayants de droit de Keith Jarrett ont dit non. Qu'est-ce que je peux faire? Et ce qui est absolument hallucinant, c'est que là, d'un seul coup, les deux temporalités, les deux manières se retrouvent. C'est que dans un premier temps, on se concentre sur Keith Jarrett et il y a cette magnifique arrivée du prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy avec ce chromatisme. Qui nous plonge comme ça dans l'incertitude, dans l'inédit, mais aussi dans la magie. Et quand le concert finit, paf, on est sur Nina Simone, d'un seul coup. Et une explosion, une Nina Simone très soul en plus, donc une explosion de vie, et on bascule du côté du personnage de Vera Brandes. Je trouve que le film, à ce moment-là, réussit une chose à laquelle je ne m'attendais pas et qui est absolument magnifique.
Alors, en quelques mots, Christiane Pascal.
Oh ouais, très rapidement, simplement, moi j'ai adoré le film complètement, et pour moi c'est pas un film évidemment Si, sur la musique en général, mais c'est surtout sur cette jeune femme, enfin cette jeune fille au départ, qui a décidé de casser les normes et de sortir de son milieu, perdantiste, qui a l'air vraiment complètement réac en plus. Et donc, elle fait ça parce que c'est sa passion. Moi, je trouve que c'est assez formidable. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous laisse apercevoir ce qui se passait à ce moment-là à Cologne, qui était à une place, comme à Berlin d'ailleurs, où il y avait vraiment un flot d'artistes qui arrivaient d'un peu partout. Et c'est ça qui m'a... Moi, j'ai trouvé ça super.
François.
Ouais. Et puis, on m'appelle Stéphane.
Non, n'importe
quoi.
J'arrête.
Vas-y.
Oh là là, oui. Je suis pas sûr de revenir en 28e saison.
Vas-y, Robert Wyatt.
Je vais me faire virer.
Vas-y, oui.
Bah, ouais, j'ai aussi beaucoup aimé le film. J'aime bien. C'est un peu comme Rock Bottom, finalement. C'est moins la narration exacte d'un fait historique que de s'imprégner d'une atmosphère. Moi, ça, comme tu. Enfin, j'y ai pensé au moment où tu parlais. C'est. Christiane, c'est. Il y a cette idée qu'on a envie d'être à Cologne en 1975, quoi.
Oui.
Et ça, je trouve ça assez bien capturé. Et puis, c'est un film qui réhabilite une femme oubliée de l'histoire sans être didactique. Il en capte l'essence plutôt que la réalité, tout en laissant les portes ouvertes, pas de réconciliation avec le père, tu disais, pas de son vraiment du concert. Et donc, il y a une captation de quelque chose, une réalité de l'époque. Il y a une liberté de ton. Et ouais, je trouve le film vraiment très recommandable.
Formidable. C'est un plaisir.
Je voulais ajouter quelque chose.
Oui, bah, mais c'est vraiment pour
une virgule,
mais tellement ça m'a marqué. Mais alors, en plus, j'ai vu dans d'autres choses et il ressemble pas du tout. Mais Alexandre Cher, qu'est-ce qui ressemble à Manfred Escher, quoi?
Fort bien.
Bon, alors ça fait le deuxième film musical. On ne parlera pas malheureusement de Kneecap, que alors, j'adore.
On aura peut-être l'occasion d'en dire un petit mot dans les coups de cœur, mais c'est pour ça que
voilà.
Malheureusement, je vous force un petit peu la main pour accélérer, parce que nous avons encore un film à évoquer dans le cadre de cette table ronde. Un changement de registre, une fois encore, du tout au tout. Martin Bourboulon serait-il en train de prendre le pouvoir sur l'entertainment français après avoir signé de sympathiques comédies Papa ou Maman et sa suite? Le cinéaste français s'est lancé dans la course aux super productions, à l'échelle hexagonale tout du moins. Après Eiffel en 2021, souvenez-vous, dans lequel 30 ans après avoir rencontré l'architecte, son amour de jeunesse avait toujours 25 ans. Puis les deux volets des Trois Mousquetaires et leurs 6 millions d'entrées cumulées, le voici à présent qui signe pour un budget avoisinant les 30 millions d'euros, un récit d'action ou de tension adapté des mémoires de Mohamed Bida. En quelques mots, nous sommes à l'été 2021. Joe Biden, le finot, a annoncé le retrait des troupes états-uniennes d'Afghanistan et le 15 août, les talibans s'emparent de Kaboul, que depuis, ils n'ont plus lâché. Le commandant Bida et ses hommes en charge de la sécurité de l'ambassade française, prise d'assaut par des ressortissants français, mais aussi notamment par des Afghans voulant quitter le pays, vont s'efforcer d'organiser l'évacuation de tout ce monde jusqu'à l'aéroport, dont la fermeture est imminente. C'est encore une singularité que de voir le cinéma français s'emparer d'un événement historique aussi récent. Oui, mais comment le fait-il? Quelle distance s'autorise-t-il à prendre sur les événements, ce qui est une affaire évidemment de récit autant que de mise en scène, vous l'aurez compris. Au casting de ce film, Roche Dizem, gaulé comme Thibaut in shape, mais beaucoup plus sympathique évidemment, Nina Koudry, Sitze Babette Knudsen et Christophe Montenez, et le film est d'ores et déjà en salle. Francis Pascal, vous avez vu 13 jours, 13 nuits.
Oui,
Pascal.
En termes de cinéma, je trouve ça très pauvre, et même moralement, je trouve ça discutable sur pas mal d'éléments. Je pense que le livre de Bida est passionnant. Je le sens. C'est quand même quelqu'un qui a fait un geste courageux qui finalement n'a pas été si couramment fait. C'est les casques bleus qui se taillent à Rwanda, Sarajevo.
En abandonnant derrière eux les civils.
Alors qu'il n'était. Moi, c'est ma conviction, je peux me tromper. Hein,
et surtout. Alors. Il embarque évidemment ses propres ressortissants, mais il se soucie également de ce qu'il advient des Afghans qui se réfugient à l'ambassade.
Oui. Il y a une humanité dans le personnage réel qui retransmet plutôt bien Roche Dizem, je reconnais ça, d'un geste vraiment courageux, parce que beaucoup de gens ont abandonné, hein, lui ne l'a pas fait. Donc, j'ai plutôt envie de dire, lisez le livre, je n'ai pas encore fait, mais ça doit être plus intéressant. Parce que le problème de la fiction, c'est plein de choses qui ne vont pas, notamment les éléments très fictionnel, c'est-à-dire le lien entre Lina Koudry et sa mère qui se sépare, qui se recherche. Donc ça rend le truc tout petit, alors que ça devrait être universel. Pareil, les doutes du personnage du journaliste interprété par Sitze Babette Knudsen. Tout ça devient très, assez médiocre. Et c'est dommage parce qu'il y avait de quoi faire un film intéressant. Alors déjà, il y a 13 jours, 13 nuits, ça pourrait être 13 heures, 13 minutes, 13 juin, je sais pas. Il y a... C'est pas incarné.
Une sorte de décompte qui est annoncé au début du film et qui après va être abandonné en réalité.
Ah oui, c'est là où il n'y a pas de cinéma dans le film, c'est un peu un problème. Et quant à la partie documentaire, elle est évacuée. Le film aurait pu être plus sec et du coup plus intéressant. Là, c'est médiocre.
Francis,
alors bon,
est-ce que tu veux défendre un petit peu le soldat Bourboulon?
Ouais, je vais défendre le soldat Bourboulon. D'abord parce que effectivement, alors moi, comme je maîtrise pas le contexte politico-historique, si ce n'est une approche d'actualité sur une chaîne d'info, donc ça, j'en parle pas. Mais par contre, effectivement, au-delà des conventions de fictionnalisation qui sont peut-être pas les choses les plus intéressantes, et notamment à travers ça, c'est le point où je reçois Pascal, le personnage de la journaliste, me dit que bon, ça, on pouvait peut-être s'en passer. Je trouve quand même qu'il y a une manière concrète et réaliste de montrer les choses. Après, en ce moment, tout le monde fait œuvre sur cet événement, puisqu'il y a eu la série Kaboul. Et la série Kaboul, moi, j'en ai vu 30 minutes, pas plus, parce que j'ai été agacé de voir qu'on était d'un seul coup dans une version anglaise, parce que, soi-disant, on pouvait pas faire une version internationale, parce que ça serait trop difficile de vendre la série à l'international. A priori, là, dans le film, on fait bien une version internationale, et en plus, une version internationale, qu'est-ce que ça a d'intéressant? C'est qu'à la fois, c'est une réalité du terrain, et c'est un élément de dramaturgie. C'est-à-dire, c'est une incompréhension, une difficulté de parole entre les militaires français et les talibans. C'est ce personnage franco-afghan de femme traductrice. Donc, il y a quelque chose à en faire, quoi. Donc, voilà. Moi, c'est ce que j'évoquerai pas parce que j'ai pas les moyens. Je reviens sur un truc que t'as déjà mentionné un petit peu. C'est que moi, je trouve qu'il y a une excellence du casting et que c'est peut-être ça qui me tient. Et je parle d'excellence du casting en dehors de nos deux têtes d'affiche qu'on aime tous beaucoup. Mais je trouve que les gens qu'il y a autour, que ce soit Nicolas Bridet en ambassadeur, que ce soit effectivement, tu as cité Guillaume Montonnette. Moi, c'était mon grand retour, parce que la dernière fois que je l'avais vu, c'était dans Le Retour du héros, de Laurent Tirard, où il interprétait un personnage un peu freluqué. Et chaque apparition de Guillaume Montonnette à l'écran, c'est à côté, presque Roche Dizem serait petit par moment. Ce qui n'est pas possible dans l'absolu.
C'est quel personnage?
C'est l'autre. C'est son adjoint, quoi, ouais. dans les gens de la sécurité de l'ambassade. Donc voilà. Et après, j'ai envie de dire qu'effectivement, tu as parlé de sa filmographie, donc je le fais très rapidement. C'est qu'après des débuts sympathiques et amusants avec Les Papas ou Mamans, qui sont des comédies de divorce, il s'est embarqué dans des productions, mais alors boursouflées à l'extrême. Hein, donc le roman national avec Eiffel, ou Un homme seul contre tous, que ce soit les ouvriers, les banquiers, les politiques et les journalistes. Et puis alors après, deux tartes à la crème qui sont les deux volets du diptyque Les Trois Mousquetaires, hein, où la seule idée de mise en scène, tu parlais de mise en scène, alors là je suis désolé, c'est pire, la seule idée de mise en scène, c'est de se dire que finalement les films la violence des combats à l'épée, on les filme en plan séquence avec la caméra à l'épaule. Et ben là, je trouve que effectivement, comme le disent les personnages, et je fais court exprès, comme le disent les personnages dans le film, les militaires, il faut dégager des angles de tir, et moi je trouve que Martin Bourboulon s'est dégagé des angles de mise en scène. Voilà, et donc je serai en désaccord avec Pascal, et ce sera la première fois, c'est promis.
C'est donc d'ores et déjà en salle, 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon. Nous en venons à présent rapidement à mon moment préféré de l'émission, celui des coups de cœur. Je me tourne donc vers vous. Y a-t-il un enthousiasme que vous souhaiteriez partager avec nos auditrices et auditeurs? Un livre, un album, une expo, un point de chute pour nos avenirs incertains? Une méthode efficace et définitive pour faire tomber le gouvernement, le capitalisme et la mort, dans l'ordre que vous voudrez? Et pourquoi pas un film si vous aimez tant que ça? C'est à vous, allez, Pascal.
Ben, en ce moment, est ressorti Stop Making Sense de Jonathan Demme, qui est le plus beau film de plus belle captation de concert jamais faite.
Absolument.
Il y a une double mise en scène. Il y a la mise en scène de Jonathan Demme, donc du cinéma, et la mise en scène de théâtre, David Byrne. C'est comment avec chaque morceau, un musicien vient, puis au deuxième morceau, un deuxième le rejoint, et le film, le concert, est en perpétuelle évolution. Et puis c'est des grands tubes, c'est Burn Down the House, c'est Psycho Killer, et c'est un bonheur. Moi, j'aime bien revoir ce film. Alors, c'est un film au texte, c'est pas forcément le plus bel écran pour voir un tel film, mais ça reste passionnant.
Et donc, un témoignage, effectivement, du génie de Talking Heads. Christiane.
J'ai trois coups de cœur.
Alors, on va essayer d'en choisir un.
Non, non, je vais juste les citer.
Ah, d'accord.
Sans donner trop d'explications.
Je suis désolée de te priver de ces prises de parole.
Moi, j'adore les films de vampires. Et donc il y a un film, c'est un premier film britannique, indo-britannique, de Karan Kandari, qui a pour titre Sister Midnight, avec une bande-son complètement décalée, qui est vraiment géniale. Donc ça, voilà, celui-ci. Il est sorti le 11 juin, donc on peut encore le voir. Il y a évidemment Mon chéri, c'est Nicap. Voilà,
qui est génial,
mais ça tout le monde est d'accord. Ouais. Je voulais aussi, ah non, il n'est pas d'accord, mais c'est pas grave.
Pas d'accord, mais sur les rappeurs belfastois, voilà. De Nicap.
Je sais que Thomas aime aussi. Il y a ce film que
le groupe moi... davantage que le film, mais je ne te coupe plus.
Voilà. Donc ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé, c'est le film de Hélène Cattet et Bruno Forzani, Reflet dans un diamant mort. Et ça, j'ai trouvé que c'était, j'étais impressionnée par, j'ai imaginé à chaque moment, si tu veux, le scénario. C'est un truc, ça part vraiment dans les détails, etc. Et puis enfin, je voulais simplement, tu vois, je suis pas longue. Un livre, c'est une BD, ça s'appelle Quand les élèves se révoltaient. Ça a été fait par un garçon qui s'appelle Francis Dupuy-Déry et une dessinatrice, Emmanuelle Dutour. Ça vient du Canada. C'est publié chez Éco-Société. Et donc, nous sommes, c'est comme ça que je vous dirais, nous sommes en 2047. Et c'est un livre d'école, de cours.
Fort bien.
Et ça s'appelle...
Oui,
Manuel d'histoire avant l'effondrement.
Merci, Christiane Pascal. Donc, merci à vous de votre présence aujourd'hui. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite d'excellentes vacances. Je vous présente une nouvelle fois mes excuses pour ma voix éraillée, multiples torsions de langage. Je crois que j'ai de la fièvre un peu, les gens. Et je vous souhaite d'excellentes vacances avec le plaisir, par avance, de vous retrouver à la rentrée. Et Francis, je te rends l'antenne, car je ne sais plus quoi en faire. Plus voilà. Quoi en faire.
Plus quoi en faire. Bon, eh bien, c'était un enfer.
Je vais me coucher, là.
On va finir cette émission, cette ultime émission de la 27e saison, et on se retrouvera le 27 septembre pour débuter notre 28e saison, je le précise de suite. Donc, comme promis, un deuxième extrait donc, de l'album de Léonie Pernet, Poème pulvérisé. J'avais dit qu'on allait écouter Réparer le monde, c'est exactement ce qu'on va faire. Et puis je vais me taire et on va tout de suite partir réparer le monde. Et donc vous êtes sur l'antenne de Radio Libertaire.
Mais il y a du boulot, hein.
On va réparer le monde maintenant. Vous êtes sur l'antenne de Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4. C'était longtemps, je me suis couché de bonheur, une émission proposée par Francis Gavel, présentée par Thomas Fouet et Francis Gavel, réalisé par Erwan Charton. Et puis pour finir, j'ai envie de dédier cette émission à Henri Pérez et à Thierry Claire Victor, qui étaient deux voix amies de la radio et qui sont partis tout récemment, et dire qu'on pense à eux. Bon été à l'écoute de notre station.
devant vous, sciemment. Je tracerai dans le monde, ne serait-ce que l'esquisse, pour chaque étoile qui tombe.